Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
En milieu professionnel, certaines personnes ne restent pas dans la même boîte durant 2 ans, par exemple. Elles changent tout le temps. Le schéma de rupture peut être identique. Au bout d'une ou 2 ans de service, l'employé ne supporte plus les gens avec qui il travaille, il entre en conflit avec son supérieur, et cela finit toujours par un licenciement ou une démission. Alors, qu'est-ce qui explique l'instabilité dans le travail, l'instabilité professionnelle, et quelle est la solution? Polydor Tangeli est spécialiste en psychologie du travail. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, Daniel Jody Kachama.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par instabilité professionnelle?
L'instabilité professionnelle est une situation psychologique dans laquelle se trouve un individu qui n'a pas une certaine constance vis-à-vis de l'emploi. De l'emploi qu'il est appelé à exercer. Et c'est comme ça que dans les études en psychologie, on la renvoie au domaine de la mobilité professionnelle. Mmh. Au fait, le personnel qui est appelé à travailler dans une organisation ou dans une entreprise quelconque connaît une certaine mobilité en termes d'entrée, en termes de départ, en termes de promotion, en termes de transfert, ainsi de suite. Mmh. Mais l'instabilité professionnelle porte sur le départ de manière non constante, hein, d'un emploi à un autre. Mmh. Et c'est dû à quoi? C'est la question.
Voilà, c'est ça la grande question. C'est dû à quoi? Pourquoi certains sont instables?
C'est lié à l'absence d'un lien psychologique fort entre l'individu et l'organisation, le travail qui l'emploie. Au fait, lorsque un individu accède à un poste de travail donné, il doit être établi un lien entre la personne et le travail qu'il exerce, et non seulement le travail, mais aussi l'organisation. Mais il se fait généralement, faute de ne pas avoir un lien fort entre le travail qu'on est appelé à exercer et l'organisation dans laquelle on appartient, on tombe dans l'instabilité.
Un exemple d'un lien.
C'est-à-dire quoi? Le lien, c'est que j'accède à un poste pour des raisons d'argent. Alors qu'en réalité, ce poste ne correspond pas à ma personnalité. Supposez par exemple que je suis un impulsif. Un impulsif. Et que je dois être au service des réceptions, au service des clients, au service clientèle. Oui. Voilà que je reçois les gens qui peuvent me faire changer d'humeur à tout moment.
Et vous les mettez mal à l'aise, ils vont se plaindre.
Oui, effectivement.
Que le réceptionniste est là n'est pas courtois.
Oui, le travail va être un poids pour moi et va me pousser à faire une rupture, comme vous l'avez si bien dit. Et je peux quitter. Et si je ne fais pas attention, je ne fais pas un autre choix. Je ne fais pas un choix judicieux, comme on l'a dit. Je vais aller de rupture en rupture. Donc, ceux qui sont stables, il faut faire une réflexion à contrario, ceux qui ont une certaine stabilité professionnelle sont des personnes à un lien fort par rapport à leur travail, par rapport à l'organisation
les emploie. Ça dépend aussi du tempérament de la personne.
Bon, en fait, là, vous abordez les questions étiologiques. Il y a plusieurs études qui ont été menées en cette matière. Il y a plusieurs facteurs explicatifs de l'instabilité professionnelle. Nous avons, par exemple, la personnalité de l'individu, comme je l'ai évoqué. Il y a certaines personnes qui sont extraverties. L'extraversion. Qui oppose le fait d'être social, bavard, communicatif, ambitieux, enthousiaste, à celui d'être en retrait, timide, taciturne, réservé. Donc, il faut un emploi par rapport à l'aspect extraversion. Il y a par exemple la stabilité émotionnelle, qui oppose le fait d'être calme, détendu, sûr de soi, serein, contrôlé, à être énervé, anxieux, peu sûr de soi et vulnérable. Et vous verrez qu'à chaque type de personnalité, il faut adapter l'emploi. Sinon, au bout d'un temps, il y a rupture.
Parce qu'il y a, il y a des gens qui ont les sang chaud.
Le sang chaud,
alors,
voilà.
Alors, il se fâche facilement. Justement. Il peut même tabasser son supérieur.
Son supérieur, voilà.
Et ça, il perd son emploi.
Il perd son emploi. Pourquoi ? Puisqu'en amont, il n'y a pas eu un processus d'embauche réussi. On pourra en parler lorsqu'il faut aborder les solutions.
Voilà. D'abord, premièrement, il y a l'absence des liens psychologiques entre l'employeur et son travail.
Oui,
n'est-ce pas?
C'est la cause principale.
Okay.
Mais il y a les facteurs explicatifs de l'absence de ces liens forts.
Quels sont ces facteurs?
Je parlais de la personnalité. Oui. On trouve l'extraversion, la stabilité émotionnelle, l'amabilité, qui représente le fait d'être courtois, tolérant, affectueux, facile à vivre, confiant, coopératif, par opposition au fait d'être agressif et intolérant, comme vous l'avez dit. La droiture aussi, qui représente le fait d'être curieux, cultivé, large d'esprit, par opposition à celui d'être conventionnel, peu cultivé, simple et étroit d'esprit. Par exemple, les journalistes. Doit être ouvert, doit avoir un esprit ouvert. Il doit chercher à se cultiver. Il ne peut pas être quelqu'un qui est borné. Puisque les choses changeant au fil du temps, il sera obligé de faire une certaine rupture avec son milieu professionnel. Mais il n'y a pas que la personnalité, mais il y a aussi la motivation.
Peut-être qu'on cherche à gagner beaucoup d'argent.
On cherche à gagner mieux, puisque s'il y a un élément motivant au sein du travail, ça peut créer un lien fort entre l'individu, son travail et son organisation, et ça va permettre à ce qu'il y ait une certaine stabilité. Mais faut-il encore que l'individu, voilà là j'évoque le troisième facteur, puisse puiser une certaine satisfaction. Satisfaction professionnelle dans le milieu et dans le travail qu'il est en train d'exercer.
Par rapport à la rémunération, par exemple ?
Pas seulement par rapport à la rémunération. Je peux ici évoquer la pyramide de Maslow qui énumère 5 types de besoins. Vous avez, par exemple, les besoins physiologiques. Est-ce que les besoins... Ce travail me permet-il de bien manger ? Ce travail me sécurise-t-il ? Il me permet d'avoir un logement digne de soi. Ce travail m'a-t-il permis d'avoir un certain réseau social ? Ce travail, il y a l'estime de soi. Est-ce que ce travail m'humilie ? Par exemple, pour certains, se présenter comme fonctionnaire est une injure. Ils préfèrent se dire qu'il est chômeur que de dire qu'il est fonctionnaire
de l'État.
Voilà.
Oui.
Donc, il n'y a pas le besoin d'estime qui est satisfait. Et il y a aussi le besoin d'auto-accomplissement. J'allais à l'université pour faire le droit, pour être un grand juriste et un grand monsieur qui devait faire des analyses et consulter pour de grandes affaires. Mais voilà, au bout de compte, je suis réceptionniste ou encore balayeur. Ou encore
chargé de la sécurité,
en Afrique du Sud. Voilà. Il n'y a pas le besoin d'accomplissement. Donc, il n'y a pas satisfaction. Et là, au-delà de la satisfaction, il y a un quatrième facteur que je peux évoquer ici, qui est en vogue maintenant en psychologie du travail, c'est l'implication organisationnelle.
C'est-à-dire ?
L'implication organisationnelle, c'est cet état psychologique qui porte sur les liens, qui décrit les liens que l'individu a vis-à-vis de son organisation. Au fait, il y a certaines personnes qui sont dans un service, qui exercent un métier sans prendre corps. C'est-à-dire, il est en dissociation avec son emploi. Il est en dissociation avec son métier. Et là, il est exposé à une certaine rupture, à une certaine instabilité professionnelle.
C'est-à-dire quoi ? Là, il fait ce travail malgré lui ?
Il fait le travail malgré lui. Il n'a pas le cœur à l'ouvrage, comme on le dit. Et là, il y a plusieurs sortes d'implications organisationnelles. Il y a, par exemple, l'implication organisationnelle affective qui porte sur la relation que l'individu a vis-à-vis de son organisation. Par exemple, pour avoir passé plusieurs années à la Radio Okapi, la Radio Okapi vous a fait marier, la Radio Okapi vous a trouvé le premier emploi, le premier logis, la Radio Okapi, vous développez un certain sentiment vis-à-vis de la radio.
D'appartenance,
voilà.
Oui.
Vous retrouvez dans un état de ne pas vivre sans la Radio Okapi. Et là, ça crée un lien solide, étroit, entre l'individu et l'emploi. Faute de quoi, s'il n'y a pas ces liens-là, vous partez.
Vous allez changer de travail à tout moment.
Mais il n'y a pas que cette sorte d'implication organisationnelle. Il y a aussi l'implication organisationnelle normative. C'est vrai que cette implication porte sur les valeurs. Vous comprenez? Mmh. Les valeurs à sauvegarder. Les valeurs acquises. Il y a certains gains d'ordre éthique que vous ne voulez pas brader. Je peux donner le cas de quelqu'un qui préfère encore être employé que d'être chômeur, malgré tout ce qu'il est en train de vivre dans son milieu de service. Il préfère encore être appelé chômeur que d'être appelé employé que d'être chômeur. Donc, oui. Donc ça, il y a une certaine valeur qui guide sa prise de son maintien dans cet emploi. Mais il y a aussi une autre sorte d'implication, on appelle l'implication calculée, où l'individu demeure dans un service, maintient les liens, simplement du fait qu'il compare ce qu'il a à gagner en quittant qu'en restant. Ouais. Mm-hmm. Et ça s'appelle d'ailleurs implication calculée. Il émane du rapport entre ce que l'on retire du travail ou de l'organisation et de ce que l'on perd. Donc voilà un peu les différentes causes
qui font que les gens partent
d'un service à un autre et ils sont caractérisés par une certaine instabilité.
Alors on retient en gros qu'il y a un manque, l'absence des liens psychologiques entre la personne et son travail.
Oui, effectivement.
Il y a aussi plusieurs facteurs que vous avez cités tout à l'heure. Oui. Alors nous parlons de l'instabilité professionnelle, causes et solutions. Vous voulez participer à cette émission, appelez-nous au 081 890 63 94. Notre invité est là, Polydor Tangeli, spécialiste en psychologie du travail. Appelez déjà, n'attendez pas les dernières minutes, le standard est ouvert. Appelez pour vous faire inscrire au 081 890 63 94.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Instabilité professionnelle, cause et remède. Christian Gabou nous appelle d'Ekpandroma, province orientale. Christian, bonjour.
Bonjour, j'ai dit Kachama, bonjour à notre invité.
On vous écoute.
Oui, par rapport à l'instabilité professionnelle, moi, j'ai une inquiétude par rapport à ces sujets. Et souvent, il se pose des problèmes de fanatisme. Il y a les employés, les entrepreneurs n'affichent pas certains comportements envers les autres, mais avec les uns, ils affichent des comportements qui ne satisfait pas tout à fait le travailleur.
Un exemple, Christian. Oui. Pouvez-vous donner un exemple?
Il y a de ces gens-là, même aussi quand ils ont mal travaillé, on essaie de les reprocher d'une manière là qui convienne un peu, mais les autres là, on les corrige, on les reproche brutalement. Alors c'est ce qui fait que il y a l'indifférence entre les gens qui travaillent. Alors c'est ce qui fait que les fonctionnaires, les travailleurs désobéissent à leur patron et même échangent de langage. Alors là, il fallait la justice, l'inégalité, peut aussi causer ce
départ
professionnel. Merci.
D'accord. Laguiloa, vous êtes à Calémie, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kacham.
On parle de l'instabilité professionnelle. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Merci. Moi, j'ai un témoignage que j'ai vécu quelque part. Et il y a un agent qui se croit compétent que son chef. Maintenant, il crée lui-même l'instabilité professionnelle. À ce sujet, il est révoqué plusieurs fois. Mais est-ce faudrait-il dire soit c'est la faute du chef, soit c'est la faute de l'agent.
Alors, vous dites que, Laguiloa, cet agent, partout où il va, il se croit toujours supérieur à ses chefs.
Oui, à ses chefs-là, il déconsidère tous ses camarades qui ne sont pas compétents. Lui, c'est lui qui est compétent. à présent, il est en conflit avec les autres.
Voilà, il a déjà eu à changer combien de travail comme ça?
Même, c'est déjà trois travaux hein, qu'il a déjà fait.
Voilà. Et vous avez une autre question?
Oui, la deuxième question, c'est de savoir que faudrait-il pour améliorer les conditions de travail pour ne pas avoir l'instabilité professionnelle. Voilà mes deux préoccupations.
Bien, merci. Polydor Tanguili.
Voilà, merci Christian et la Guillois pour vos différentes questions et contributions, puisque j'ai constaté qu'il y a certaines contributions aussi. Mmh. Bon, en fait, il faut faire la part des choses qu'on ne peut faire état d'une certaine instabilité professionnelle que lorsqu'il y a un certain nombre de ruptures. Et ici, la temporalité, c'est-à-dire la durée, dépend d'un individu à un autre. On peut quitter un service après 6 mois, on peut quitter un autre après
une année,
2 ans, mais ça doit faire l'objet d'un constat, puisque au contraire de l'instabilité, il y a la stabilité. Il y a certaines personnes qui sont même primées par la fidélité.
Si nous qui ont fait plus de 10 ans dans une entreprise.
Oui, oui. Tandis que, alors que d'autres ont fait 10 ans dans une entreprise, certains pendant les 10 ans circulaient 5 entreprises. Alors, je souligne ici par rapport aux préoccupations, puisque je vais les amasser, hein, mm-hmm. je vais répondre d'un seul coup, c'est que la responsabilité dépend à la fois de l'organisation, du travail et de l'employé. Si l'employé a un état d'esprit qui ne le dispose pas à exercer un travail, bien que le travail soit bien décrit, bien qu'il y ait des conditions réunies, j'insiste ici sur les conditions matérielles mmh. et salariales, puisqu'il y a des gens qui partent malgré un grand salaire et qui démissionnent, qui partent. Mais il est lié aussi au rôle de l'organisateur. Quel est le rôle de l'employé vis-à-vis des personnes qu'il a reçues. Voilà pourquoi je peux ici aborder directement la question par rapport aux solutions, hein, mm-hmm. telles qu'elle a posé la Guillois de
Calémie.
En fait, ici, les responsabilités sont souvent partagées lorsqu'on observe une certaine instabilité professionnelle auprès des individus. Mais il est question de poser un diagnostic adéquat pour identifier si la responsabilité de l'instabilité professionnelle incombe soit à l'employé, à l'employeur ou à la nature même du travail. Premièrement, il y a d'abord au niveau de l'individu l'exigence de se connaître soi-même, c'est-à-dire connaître ses forces et ses faiblesses et par rapport à ses faiblesses et ses forces, mmh. faire un choix judicieux de l'emploi.
Par exemple, si on prend un travailleur conflictuel, partout où il va,
oui.
il se crée toujours des conflits avec tout le monde. Il a du mal à vivre avec
Mais
les autres.
Mais attention, quand on est conflictuel, on peut aussi s'en sortir dans certains travaux qui n'exigent pas la collaboration.
Lesquels, par exemple?
Un laborateur, par exemple. Vous comprenez?
Oui.
Un travail qui n'exige pas beaucoup de sociabilité. Un contact avec les hommes. Il y a des travaux qui existent comme ça.
Oui.
Et des personnes comme ça ont ces profils-là.
Ils peuvent aller travailler là-bas.
Donc,
oui.
La personne, avant de chercher un emploi, doit savoir la nature de l'emploi. Il doit d'abord se connaître lui-même. Voilà pourquoi nous faisons appel ici à nos auditeurs de contacter les psychologues. Puisque les psychologues ont les services d'orientation professionnelle. Ils vont mettre en branle tout l'arsenal instrumental d'investigation pour mm-hmm. vous connaître et vous présenter votre profil psychologique et vous orienter, essayer de vous dire, voilà, par rapport à ce que vous êtes, il faudrait l'emploi. Il y a aussi un deuxième élément. Même si je me suis fait connaître moi-même, mais est-ce que le processus d'embauche, le processus qui m'accueille, qui me fait occuper un poste, a-t-il été un processus réussi? Et là, c'est un appel lancé aux différents...
Lors du recrutement, comment ça se passe?
On doit faire un recrutement réussi. On ne doit pas faire un recrutement avec blabla. Voilà. Par exemple, le recrutement qui se fait, bon, voilà, il y a un poste vacant. Est-ce qu'il y a un monankasi, mon etout, mon toto et tout ça. On fait appel, il occupe un poste. C'est après qu'on les connaît. Il faut un processus. Voilà pourquoi il y a des services de placement par-ci, par-là, mmh. pour faciliter à l'entreprise d'avoir l'homme qu'il faut à la place.
Pour connaître bien connaître les profils du candidat.
Connaître le profil du candidat par rapport aux exigences du poste. Mais aussi, il faut, une fois qu'on est déjà embauché, il faut que l'organisation elle-même ait une certaine politique de valorisation des ressources humaines. Puisqu'au fait, les employés ont toujours cru que... les employeurs ont toujours cru que les employés sont des gens à utiliser de n'importe quelle manière. Et généralement, l'homme qui travaille n'est pas mis au centre des préoccupations.
Comment le valoriser? Je reviens à vous dans quelques instants. Le temps d'accueillir Emmanuel qui nous appelle de Lubumbashi.
Au pays des léopards, le ballon est roi. Et le football a désormais son émission. Okapi Foot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Okapi vous donne la parole. Okapi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Instabilité professionnelle, cause et solution. Emmanuel, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
On vous écoute.
Oui, j'aimerais poser la question à l'invité. Quelles sont les stratégies que l'employé peut prendre vis-à-vis à son chef si ce dernier est brutal en cas d'un problème?
Voilà, si quelles précautions prend si le chef est brutal? Merci Emmanuel. Kiboué est en ligne depuis Kalemi. Bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama. Bonjour à l'invité aussi, à tous les auditeurs. C'est Cédric Kiboué depuis Kalemi.
Quelle est votre question?
Oui, j'ai un petit témoignage à donner, monsieur Jeudi. C'était par rapport au conflit professionnel. C'était par rapport au niveau d'études qu'a le chef et son adjoint. Parce que le cas sous examen est que le chef, c'est un ancien. C'est un exemple d'un service de l'État, de la place ici à Kalemi, que j'aime bien à dire le nom, à citer le nom. Où le chef, c'est un ancien de l'État. Alors, du moment où son adjoint, c'est un licencié il a deux diplômes d'université, alors deux fois, il n'est pas en mesure de se soumettre devant son chef du moment où le chef est ancien du service. Alors, ma question était de savoir auprès de l'invité, qu'est-ce qui peut donner l'opportunité à ces deux agents de l'État de pouvoir collaborer, d'autant plus que l'autre est ancien, mais qui n'a pas un niveau suffisant par rapport à son inférieur. C'est un peu ça, monsieur, je dis Daniel Kachama.
Bien, merci Polydor Tangeli.
Voilà, on va revenir sur des stratégies plus tard, mais je réponds d'abord aux questions. Mmh. Au fait, l'ami qui parle de cas de conflit, le monsieur Emmanuel de Lubumbashi.
Il dit que le chef est brutal. Son subalterne à la démission.
Oui, ça
à
peut.
À changer de travail, de service.
En matière de conflits, nous pouvons dire que nous pouvons. Souvent, nous nous plaignons des réactions. Et nous pensons que les réactions sont des actions. Ces conflits peuvent être dus à l'agent lui-même. C'est peut-être l'agent qui peut avoir causé ces conflits. Donc, je ne connais pas la nature des conflits, mais je vais lui donner le schéma typique de résolution des conflits. Il faut poser un diagnostic, établir les responsabilités et dégager les éventualités de solutions que chacun doit apporter pour la résolution de conflits. Mm-hmm. Question maintenant de faire une étude des cas par rapport aux conflits professionnels qu'il y a dans cette matière-là. Voilà pourquoi je conseille à des amis, il y a des psychologues du travail qui sont parsemés à travers le pays.
Est-ce que dans chaque entreprise, il y a des psychologues du travail?
C'est recommandé, mon frère, à l'époque. Moi, j'ai fait la psychologie du travail à Kisangani. À l'époque, nos aînés, nos parents qui faisaient la psychologie du travail vers les années 70, ils étaient toujours recrutés une fois qu'ils finissaient leurs études. Et ils ont été les premiers gestionnaires du personnel dans beaucoup de services ici. Mais maintenant, là, ils sont relégués à...
Dans les oubliettes.
Et voilà pourquoi... Les ressources humaines ne sont pas valorisées à bon escient. Par rapport à notre ami qui nous a dit que...
Qui parle du niveau d'études, hein, les chefs...
Le niveau d'études, mon cher ami, nous qui avons des licences aujourd'hui, nous devons nous rappeler que pour être performant dans une entreprise, seule la qualification ne suffit pas. Il y a l'expérience qui compte aussi. Alors, souvent quand nous
avons des diplômes... Les jeunes gens qui sortent de l'université avec leur diplôme de licence, ils sont un peu
au guillot, voilà. Là. Moi, ça me rappelle mes premières années professionnelles. Mais j'ai vu mon français rhétorique de l'université être corrigé par le français de l'administration. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y avait un grand écart entre ce que j'étais et ce que je suis sur base de l'expérience.
Et si vous n'étiez pas patient, vous allez changer de service
J'invite ici, c'est un problème récurrent, ici nos amis licenciés à mettre un peu d'eau dans leur vin pour pouvoir faire corps. Puisqu'au fait, si vous êtes dans l'administration publique, il y a le principe de la carrière. Donc, vous ne pouvez occuper un poste supérieur que par rapport à votre ancienneté et par rapport à votre évolution au sein de la structure. Donc, malgré votre licence, vous serez engagé comme ATB2, alors que le chef de bureau, c'est un PP4. Un PP5 qui a fini vers les années 70, qui a fait montre d'une certaine stabilité professionnelle, oui. Et qui a été promu, et ainsi de suite. Donc, un peu d'eau dans le vin. Je ne connais pas les cas, peut-être qu'il faut... me contacter par la suite pour pouvoir essayer de faire un diagnostic réel.
Un peu d'humilité.
Un peu d'humilité, mais aussi, tout en étant humble, essayer de donner le meilleur de soi-même. Puisque, c'est vrai, ils sont expérimentés, mais ils sont souvent à déphasage avec des changements.
Trop conservateurs.
Hein. Trop conservateurs, oui. Il y a à reprocher de part et d'autre.
Donc, soyez humble, gardez votre travail, ne le quittez pas aussitôt parce qu'il y a un conflit avec le chef.
Mais je dis avant d'entamer l'autre ami, j'ai parlé de la valorisation des ressources humaines. Nous devons, les services du personnel, l'employeur doit mettre au centre de ses préoccupations l'homme qui lui rend service. Voilà pourquoi il est prévu, par exemple, les counseling interviews. Hein? De temps en temps, il faut parler avec celui que vous employez pour savoir s'il est effectivement impliqué.
Comprenez? Quelles sont ses attentes? Quels sont ses besoins?
Oui, quels sont ses besoins? Quels sont ses points forts?
D'accord. On va accueillir Dani Nkita de Mbujimaï. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, bonjour. J'ai quelques préoccupations.
Oui, Dani.
Oui, je disais ceci. Alors, qu'est-ce qu'on peut considérer comme cause de l'instabilité professionnelle?
Voilà, qu'est-ce qu'on peut considérer comme cause? Une autre question?
Oui, c'est que nous constatons que dans des entreprises actuellement, il y a certains employeurs qui continuent à appliquer le système libéral, du libéralisme. Où les travailleurs, on n'y apporte pas une certaine considération. Les traitements, les salaires, tout ce qu'on peut donner là, dépend toujours de l'employeur. Alors, ça aussi, ça constitue vraiment le motif pour lequel les gens quittent l'entreprise. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des conséquences, peut-être dans la vie professionnelle d'une personne qui est toujours victime de l'instabilité professionnelle?
D'accord. Merci, Dani. Daniel nous appelle de Guémena. Bonjour.
Oui, allô, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Daniel.
Ok. J'ai une préoccupation, je vais vous dire ça.
Oui.
Monsieur le journaliste, je vous dis une chose. Vous savez, moi, je suis d'accord, d'abord, premièrement, pris à cet otage. C'est parce que quand nous faisons un peu notre stage, c'est pour avoir la formation et c'est de là que ça va nous aider à bien travailler dans des organismes. Vous savez, je suis allé faire mon stage, puis le chef que je travaille là, lui ne veut pas que moi je fasse les stages comme il faut. Jusqu'à ce que je suis assis là où on m'avait donné la place, la chaise assise. Les chefs veulent tout me chasser. Alors, comment est-ce que moi aussi je deviendrai capable de travailler? Ça, c'est une façon aussi de dire que c'est une instabilité du travail. C'est parce que là où nous allons faire les stages, nos parents, nos papas qui sont nos IA ne veulent pas que nous fassions les stages comme il faut.
Mais écoute, Dani, là
tu me demanderais à notre invité de nous dire ceci. Aider et paix nous aider à bien nous guider dans le lieu du stage.
Écoute, Dani, là...
Ça va nous aider à bien travailler dans, dans des organismes.
Oui, Dani, là, écoutez. Écoutez, Dani.
Je voulais dire, vraiment, je suis tellement choqué de cette affaire. Je vous remercie.
D'accord, mais là, c'est un cas de stage, Dani. Ici, on parle de quelqu'un qui est déjà engagé, qui travaille dans une entreprise et qui change à tout moment. Là, vous étiez stagiaire, on vous a chassé, je ne sais pas pour quelle raison, le monsieur ne veut pas vous voir dans cette entreprise-là. Mais l'invité va répondre tout à l'heure. Le temps d'accueillir Berry, qui est en contact avec les internautes sur la page Facebook de Capi Service. Berry, bonjour.
Bonjour, Jody, et bonjour à tous.
Alors, qu'est-ce qu'ils disent?
Alors, il y a beaucoup de réactions, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, on va lire peut-être la réaction d'Idrissa Akiba de Bukavu, qui dit que l'arrogance des chefs face aux collaborateurs, c'est-à-dire aux employés, est la cause principale de cette instabilité. Alors, que faire dans ce cas? Et est-ce qu'il faudra condamner l'employé s'il change d'emploi? Et Renak Lemboussa de Beni, au Nord Kivu, qui nous dit aussi que c'est le manque de communication et la malhonnêteté des chefs face aux agents qui en est la cause. Voilà leur contribution.
Bien. Polydor Akiri.
Voilà.
Tangeli.
Au fait, l'arrogance, le manque de communication, ce sont des réalités liées à l'emploi. Au fait, en matière du travail, il y a un principe sacro-saint. Il y a l'adaptation de l'homme au travail et l'adaptation du travail à l'homme. Tout dépend. Je vous ai dit que il n'y a pas un seul travail qui n'a pas d'écueil. Si pour vous, l'écueil est l'arrogance du chef, mais pour l'autre, l'écueil, c'est le salaire. Pour l'autre, l'écueil, c'est la surcharge. Il y a des personnes qui ont un emploi, mais ils arrivent au bureau, ils n'ont rien à faire. Mais l'instabilité professionnelle arrive, la rupture arrive, lorsque vous vous laissez dominer par l'écueil. C'est-à-dire l'écueil lié à votre emploi. Et ça cause maintenant une certaine rupture. Nous avons dit que c'est lié à la personnalité, c'est lié à la motivation, à la motivation, à la satisfaction et à l'implication organisationnelle.
Alors vous risquez de démissionner à tout moment.
Quitte à vous. Peut-être là, il faut que j'évoque l'aspect conséquence de l'instabilité professionnelle.
Bien sûr.
Quitte à vous, si vous tenez à conserver votre, votre emploi, à pouvoir faire ce que nous appelons en psychologie la compensation. Vous comprenez? Essayez de faire un effort et d'obtenir un coaching d'un psychologue qui va vous mettre en état d'implication affective. C'est-à-dire vous développez un sentiment d'affection vis-à-vis de votre emploi. Et vous taisez beaucoup de... Prenez la liste de tous les employés du ministère de la fonction publique. Mais beaucoup y sont par affection.
Beaucoup, parce qu'ils aiment leur travail.
Ils disent, bon, mieux vaut ceci que rien. C'est un problème de sentiment.
Oui.
Certains sont là puisqu'ils refusent d'être chômeurs que d'être là. Vous comprenez? Donc, alors, tout dépend de l'individu.
Bien sûr. Alors, quand un employé est instable, qu'est-ce que cela entraîne comme conséquence?
Les conséquences sont nombreuses. Pourquoi? Puisque lorsque, en 5 ans, vous avez accumulé 5 emplois, le prochain employeur aura peur de vous. Il va dire, ah, il est dangereux. Et voilà pourquoi dans les job descriptions, dans les formulaires à remplir, on vous demande de dire pourquoi vous avez quitté l'autre entreprise. Voilà. Donc, l'instabilité professionnelle n'est pas une valeur. N'est pas une valeur. Et puis, ça, c'est au niveau de votre carrière, de votre avenir professionnel. Mais sur le plan social aussi, mais imaginez-vous, ça a des conséquences graves. L'instabilité professionnelle conduit à une instabilité sociale aussi. C'est un emploi qui va vous demander de quitter le milieu, de faire ceci.
Tu quittes ici, tu es chômeur un moment, et puis le temps de postuler ailleurs.
Le temps de postuler ailleurs. Et puis, si vous n'allez pas, on ne saura pas dresser un bilan de votre carrière en bonne et due forme. Vous comprenez? On ne saura pas dresser un bilan. Donc, vous êtes un monsieur à contenu vide sur le plan professionnel.
Il a 6 mois ici, là-bas une année, là-bas il a...
Ça a tellement de conséquences que ça vend de vous une très mauvaise image. Ce n'est pas une valeur, comme je l'ai dit.
Voilà, c'est pas une valeur. Alors, on suppose qu'il faut, au moins, vous avez dit, pour rester dans un travail, cela demande aussi, il y a un aspect affectif qu'il faut développer,
un
lien
affectif,
avec son travail.
Un lien. Oui. Un lien par rapport à son travail. Mm-hmm. Au fait, ici, j'ai évoqué plusieurs facteurs. Il est question que chacun puisse faire un diagnostic. Hein? Je ne saurais pas répondre ici au cas par cas.
Oui.
Il fait un diagnostic de la réalité. Il voit quels sont les aspects attrayants et qui puissent le maintenir. Et nous, en psychologie, si nous sentons vraiment qu'à tout point de vue, il n'y a rien d'attrayant dans le service, nous pouvons conseiller une certaine démission.
Alors, on peut rester dans un service pendant combien d'années? Est-ce qu'il y a un temps, un temps minimum?
Bon, ça dépend. Ça dépend aujourd'hui. Ceux que nos collègues qui ont obtenu des services, de l'emploi dans des organismes,
oui.
Aujourd'hui, ils ont des contrats à délai déterminés. Hein. Mmh. Ça, ce n'est pas de l'instabilité professionnelle. On parle de l'instabilité professionnelle lorsqu'on a un travail à durée déterminée, mais qui est caractérisé à durée
indéterminée.
Laisse-moi parler. Déterminée ou indéterminée, mais caractérisée par une certaine rupture. C'est-à-dire la consommation de la temporalité n'est pas effective.
Mmh.
Donc là, on fait état d'une certaine instabilité.
D'accord.
Nous avons parlé de la rupture.
D'accord. Voilà. Polydor, peut-être que certains auditeurs voudraient continuer la discussion avec vous après l'émission. Les numéros par lesquels on peut vous joindre.
Je suis joignable, chers amis, à 09 99 6000 46. Ils peuvent aussi me joindre par email, puisque c'est la voie aussi recommandée, à Polytange, au fait c'est Polydor Tangeli, polytange@gmail.com. Nous pourrons suffisamment échanger avec...
D'accord. Je rappelle le numéro de téléphone 09 99 6000 et puis 46. Polydor Tangeli, spécialiste en psychologie du travail. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Jody Daniel Kachama.